Les cours du Collège de France, Bao Chao Ngo, chères formes automorphes.
Donc, je continue avec mon histoire du centre et du co-centre la semaine dernière. J'essaie de développer un peu. Donc, on a je rappelle un peu les notations. Donc, quand j'ai un groupe semi-simple, et je suppose simple en connexe pour simplifier la vie, alors j'aurai des applications différentiables, si on veut. Donc GF sur GF, c'est simplement l'ensemble de classes de conjugaison. Quand je change de notation, je rappelle ça Y. Donc ça, c'est vraiment un ensemble, ça n'a pas de structure algébrique. Mais on aura l'application qui sur G des F points du quotient invariant. Donc là, c'est un espace affine sur F. Donc là, c'est un espace vectoriel sur F. Lorsqu'on suppose que F, G est un groupe semi-simple, simplement connexe. Donc on appelle ceci X. Donc en tant qu'espace vectoriel, on aura une mesure canonique avec un scalaire près. Mais en fait, on peut même fixer le scalaire. On appelle ça DX. Donc une mesure invariante pour la structure d'addition sur ce quotient invariant. Donc cet ensemble de classes de conjugaison, ce n'est pas l'ensemble de F points d'une variété algébrique quelconque, mais en revanche, si on enlève les points singuliers, donc les classes de conjugaison semi-simples, régulières semi-simples, donc forment un ouvert de cet ensemble. Qui serait étale en quelque sorte, donc localement isomorphe, pour topologie analytique, au-dessus de ce vectoriel. Du coup, on a droit de retirer la mesure de R, dx, en une mesure dy, sur cet ensemble. Donc c'est absolument canonique, juste en décidant qu'il n'y a pas de mesure, la mesure est 0 sur le complémentaire. Voilà. Et du coup, on a c'est des mesures canoniques. Donc, si H est l'algèbre, de Heck, des mesures localement constantes. Un support compact dans le groupe. Alors, comme toutes, on appelle ça Y par exemple. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si c'est génial, mais enfin, il faut une notation. Il faut de. On a droit de pousser en avant les mesures supercompactes, donc on aura Y, ici H, élément de H, on peut pousser en avant H, et il se trouve que c'est localement intégrable par rapport à la mesure canonique, donc on va définir le résultat, c'est dy multiplié avec une fonction localement intégrable qu'on appelle l'intégrale orbitale. C'est l'intervalle orbital normalisé. De H. Donc j'insiste sur que cette fonction est en fait est indépendante de tout. Donc il n'y a aucun choix. Je fais aucun choix ici. C'est un but qui est relativement modeste, qu'on veut faire l'analyse harmonique entièrement sur Y ou l'harmonique stable sur X au lieu de faire des intégrations sur GF. On va tout descendre sur des sources et quotients, donc on va écrire des formules sur ces ensembles de classes de conjugaison ou de classes de conjugaison stables. Donc, d'abord, si on a mesure de Ecke sur G, on va le pousser en avant pour écrire comme une fonction localement intégrable et lisse sur la partie régulière semi-simple. Et pour toute représentation irréductible lisse pi de g de f, on a une forme linéaire trace de pi qui va de h dans c, et on voit h sur la trace de pi de h. Donc h en tant que mesure localement invariante définit un opérateur sur le vectoriel de pi à une image finie, donc on a le droit de prendre la trace. Donc il définit bien une forme linéaire. Et on sait par exemple de Harishchandra que donc ça c'est la trace de pi en tant que forme linéaire sur H, et donc une fonction généralisée. Et par exemple de Harishchandra, on sait que trace de pi c'est en fait une fonction. Donc trace de pi est une fonction localement intégrable et lisse sur G de F, sur G régulier semi-simple de F. Et donc on peut le voir trace de pi comme une fonction sur I. Y. Il faut une variante. Et donc on peut écrire des formules comme la trace de pi sur h, donc c'est l'intégrale sur g de f de θ pi de g. Et dh, je ne sais pas comment écrire ça, h de g. Et comme par la définition même de. C'est pas par définition, il faut démontrer quelque chose, mais on peut. C'est la même chose que l'intégrale sur y de θ pi de y. Et fois ou h de y. Donc, aussi bien que le caractère que l'intégrale orbitale deviennent des fonctions sur l'ensemble des classes de conjugaison. Et quand on fait l'accouplement entre ces deux fonctions, on obtient la trace de l'opérateur de Hecke sur la représentation. Et donc ça c'est un point, je pense que si je te rappelle, mais il y a deux choses dont je veux développer les propriétés. Une part c'est on doit faire la même chose sur les classes de conjugaison stable. D'une autre part, il y a sur le Y. Dans le Y, il y a un ouvert très remarquable, c'est l'ouvert elliptique. L'ouvert qui correspond à la conjugaison elliptique. Et sur l'ouvert elliptique, il y a une autre mesure. Qui est multiple de la mesure additive, en quelque sorte, qui est vraiment remarquable. Donc pour ça, on peut revenir à notre remarque la semaine dernière, si pi est une représentation cuspidale, supercuspidale, de g de f, alors le pi définit un point isolé dans la variété de Bernstein. Oméga. Et du coup, on a la fonction epi La fonction caractéristique de ce point isolé, donc qui vaut 1 sur ce point et vaut 0 ailleurs, c'est bien une fonction régulière. Et dans le sens de Bernstein, donc idempotent, associé, et en tant que élément de sens de Bernstein peut aussi bien représenter comme une fonction régulière sur la veille de Bernstein, mais elle peut représenter comme une distribution invariante, essentiellement à support compact. Et cette distribution EPI, et je rappelle, c'est θ de Pitchek, le caractère de Pitchek, et multiplié avec la mesure de degré formel fois la mesure de R. Donc ceci est une fonction bien définie et le produit des pi et la mesure de R est aussi bien définie. Donc l'idempotent est aussi indépendant de tout choix. Voilà, donc ça c'est une formule qui est dans Bernstein des lignes. Et je vais aussi définir C qui est le cosin de Cajdan. C'est une complétion du vrai cocentre. Donc vous voyez que H, ce cocentre est un module sur le centre de Bernstein. Et les éléments de ce module sont tous supportés par un nombre fini de composantes. Donc c'est juste de passer le nombre fini de composantes à toutes les, éventuellement toutes les composantes, c'est la complétion. Et ça nous donne ce. Donc ça, c'est une construction qui n'a rien de profond, mais qui est commode parfois. Donc je vais expliquer le C, c'est vraiment un module, un Z module, qui est presque un module libre de rang 1. Donc sauf en quelques points, comme un peu des variables, comme lorsque il y a un induit qui n'est pas irréductible. Donc, parce que le centre de Bernstein ne distingue pas le trivial et la Steinberg. Alors, le cosinte, il distingue les deux. Donc c'est juste là où il y a. Où il y a une différence entre les deux. Mais sur la superficie pleine, il n'y a aucune différence. Donc la fibre de C à ce point pi est un espace vectoriel, un C vectoriel de dimension 1. Donc la fibre du cocentre en ce point. Et comme j'avais tenté d'expliquer un peu la construction, on a entre le Z et le C. Au point SN2, j'ai expliqué, mais je crois bien qu'il y a une construction générale, mais je n'ai pas encore travaillé. Voilà. Donc on a des flèches dans les deux centres. Les transformations de Laforgue entre le centre et le cocentre, mais en particulier, c'est des isomorphismes au point de pi. Donc ça donne. Induisent une base, donc un vecteur non nul de cet espace vectoriel. C'est ce cocentre. Et comme on sait que les cocentres ici, c'est un élément de ce cocentre H sur H, et donc ça peut se représenter comme une fonction sur Y. Donc on se demande quelle est la fonction. Et là, donc la question, c'est donc la proposition, c'est que si on applique la transformation de Laforgue EPI, eh bien c'est un vecteur de non nul dans ces pi. C'est un vecteur. Donc pi est supercuspidal. Non nul de Cpi. Et c'est donné et comme et en tant que fonction de qui est donné par la formule, c'est le caractère, de nouveau c'est le caractère de pi, mais c'est la partie elliptique du caractère. Et puis il faut normaliser, ça vient de normalisation sur la mesure, donc il y a delta et v. Donc c'est le ce qu'on appelle ça, tout ça c'est de nouveau, c'est tout dans le même travail en collaboration avec Zilling. C'est le caractère elliptique normalisé. Donc quelle est la signification de, donc un elliptique, c'est vraiment la fonction caractéristique de l'ouvert elliptique de Y, donc c'est des classes de conjugaison régulière et elliptique. Et delta c'est défini sur tout Y, et une fonction à valeur dans des réels positifs tels que delta carré et la valeur absolument discriminante de Weyl. Donc, discriminant de Weyl, c'est une fonction régulière, semi-régulière, algébrique, fonction régulière sur le groupe. Et quand on va prendre l'absolu, on aura une fonction à valeur réelle. Donc, sa racine carrée est bien déterminée, c'est delta. Et comme c'est une fonction invariante, donc ça bien définit bien une fonction, fonction à variable réelle sur l'ensemble des classes de conjugaison. Et V, alors V c'est quoi? V c'est la. V c'est dans le carré, c'est le 2pi ou le pi. Là, j'ai fait une fois, mais chaque fois j'oublie. Mais les V c'est le V, ça vient du volume du centralisateur. Régulier, qui est compact. On a cette application Y vers Y, et ici on a DG. Ici, on a des Y. Et par Fubini, on a une mesure invariante sur toutes les fibres. Y moins un des Y, pour les Y dans. Donc, régulier semi-simple, si on a une mesure sur l'espace, une mesure sur la base, on aura une mesure sur les fibres. Et comme cette fibre est une variante, et cette fibre, c'est la même chose que G de F, on a Y moins 1 de Y, et la même chose que G de F, GF divisé par G gamma de F, pour gamma dans un élément dans la classe de conjugaison. Et lorsque Y est elliptique, G gamma de F est compact. Alors, ici, on a la mesure D de G. Et si on a une mesure sur l'espace homogène, ça induit une mesure de G gamma sur G gamma de F. Et ce volume, et c'est le terme volume et le par rapport à cette mesure. Donc c'est une je crois que j'ai un petit trou ici dans les mesures. La formule ici est correcte, mais la façon que je rappelle quel est le volume ici est propre, not correct. Ce volume ici, ça doit être quelque chose qui est volume et ne dépend pas. Dépend. C'est une constante. Constante. Dépendant du tor. Du temps maximal de classe de conjugaison stable, du temps maximal contenant gamma et non pas gamma lui-même. Donc ici je mets une précaution propre, ce que je dis ici n'est pas correct. Donc il faut donc le delta, lorsque gamma varie dans le tor, c'est delta qui va suivre la dépendance quand gamma change dans le tor. Mais chaque tor, il y a un constant qui, à l'origine, c'était ce volume. Donc, en préparant le cours, je crois que j'ai fait une erreur ici. Bon, en tout cas, on a une formule comme ça. Donc, c'est une fonction qui est. Donc l'image de Ramon de la forme du caractère θπ dans du champ de Bernstein sera essentiellement un caractère elliptique. Donc il faut multiplier V delta et V c'est une constante dans le carréen, c'est 2π, mais dans le cas périodique il y a 3 tors, donc chaque tor il y a un nombre. Mais ici je crois que j'ai dit une bêtise ici. La démonstration n'est pas difficile, sauf que je suis sûr que je vais faire une erreur. Mais oui.
3 tors, tu dis c'est...
Dans le cas SN2, il y a 3 tors, oui. Ouais. Mais je pense qu'au cas SN2. Donc, une compacte définition de. Par définition de la transformation de la forme. Ce qu'on a trouvé, c'est un élément H dans H, tel que. On doit trouver le pseudo-coefficient. Donc, tel que la trace. Donc de pi prime sur h, ce sera 0 si pi prime est différent de pi et 1 si pi prime est égal à pi. Et alors la transformation de Laforgue de epi sera l'image de h dans h sur dans le cocentre. Donc ça c'est la définition. Et quand est supercuspidal, quand pi est supercuspidal, et quand on peut prendre phi une coefficient de matrice, tel que phi de 1 égale à 1, alors si je ne me trompe pas, on peut prendre le phi 1 dpi dg dans h. Et donc, cette fonction-là satisfait cette condition. Et la transformation de Laforgue de epi, ce sera l'intégrale orbitale de ce h. Donc on prend un coefficient de matrice de pi et on calcule une lettre orbitale, eh bien on retrouve bien le caractère elliptique. Donc le sera 0 dans le lieu non elliptique. Et le lieu elliptique, c'est exactement le caractère. Et toutes ces constantes, ça vient des différentes mesures. Vous voyez que dans la formule qui relie la formule usienne qui relie une coefficient de matrice avec le caractère, c'est l'intégrale par rapport à dg. C'est juste l'intégrale la formule theta pi dg. C'est l'intégrale sur g de f de phi g gamma g moins 1 dg. Il n'y a pas de mesure sur le tore. Et c'est pour ça qu'il y a la comparaison, ça va appeler ce volume. Et puis ce delta, ça vient aussi de la comparaison. Si j'essaie de faire quelque chose, je veux dire des bêtises, mais je crois que la formule est absolument correcte.
Quelle est la définition?
Je n'ai pas la définition, mais j'ai simplement dit que la force devait être quand il y a une question sur les points réductibles entre il y a le Trivian et le Steinberg. Tu dois décider que c'est 0 sur le Trivian et non 0 sur le Steinberg. Donc je connais la trace de la somme. Et ça, en général, c'est ce que je pense, mais je n'ai pas de formule pour l'instant. C'est qu'il y a une seule composante qui donne toute la trace et tous les autres constituants doivent être nuls. De seulement Steinberg. Et je pense que c'est un 7 dans une définition générale, mais je n'ai pas de démonstration. Enfin, c'est une définition, mais vous pouvez être sûr que c'est.
En cas de
SL2, oui.
Aussi les 1,8 qui se décomposent le centre, c'est-à-dire l'1,8 qui a un caractère quadratique.
Oui.
Parce qu'on a deux qui sont quasiment indiscernables.
Oui, oui. non, mais elles sont. Je crois que dans ce cas-là, ils sont dans les deux, dans le même paquet, mais ils sont de points différents dans la variété de Bernstein, donc je n'ai pas de problème pour définir la force dans ce cas. Il y a la transformation de la force entre le centre de Bernstein non avant stabilisé et le co-centre. Donc le seul problème, c'est le point réductible. Mais, oui. Attends là. Oui. Oui, c'est le caractère. Oui, enfin, je sais pas comment définir la forme. Dans le cas sur la partie stable, une formule. Mais le caractériser sur ce qui se passe sur la représentation, c'est ce que je. C'est plus. Donc il y a là quand même une des formules jolies. Donc dans la variété de Bernstein, le centre de Bernstein est restreint à une superficie plane donnée par exemple par le caractère, alors que dans le cosens donné par le caractère elliptique. Et on a aussi, si on va besoin plus tard, c'est des ça donne des formules pour les accouplements elliptiques. Thank you. Donc si si pi et pi prime sont des représentations irréductibles de G de F, et qui ne sont pas équivalentes, alors on a on a theta pi et theta pi prime, le caractère et par le même raisonnement, on a l'orthogonalité. La formule d'orthogonalité, c'est si on intègre sur la partie elliptique de Y, de θ pi, de Y, θ pi prime de Y. Donc pi n'est pas égal au contre-gradient de Y, et delta I, VI, de Y, on aura 0. Donc c'est le même que la formule d'orthogonalité de Cashdan, mais je trouve que c'est plus sympathique parce qu'au lieu d'un accoupement des phénomènes abstraits, on a vraiment une intégration qui prend sur la partie elliptique avec cette mesure sur la partie elliptique qui est la même mesure que la mesure additive. Mais il faut corriger par la racine carrée du discriminant de Weil et puis ce volume qui est donné, qui est le... Oui, donc c'est beaucoup mieux de dire qu'en fait sur chaque tore on a la mesure canonique des tores, et c'est le volume quand c'est compact, donc on a un nombre, donc c'est le... Donc sur chaque tore, on a une mesure canonique définie par les formes différentielles. Et quand c'est compact, donc ça donne un nombre, et c'est ça le volume. C'est ça que j'aurais dû dire. Quand c'est.
Si tu prends pi égale 1 et pi prime.
Oui, c'est vrai. Tempéré. Ces formules sont très jolies dans le cas du groupe réel. Quand pi est cuspidane, donc on a pi est égal à contraire de pi prime, et on a aussi de gain à 1 aussi. Et dans le cas du groupe réel, SN2 de 0, et ici on a le. Pardon, il faut que, avant de cela, je dois parler de la partie stable. Donc, avec un orbite stable. Donc on pourrait faire la même opération pour le g de f, sans moins vers y, sans moins vers x. Donc j'appelle ça y, x. Donc on aura le... quand on a h dans h, on peut le x. Et l'intégral sera l'intégral orbital stable et h fois dx. Et donc, on a quand pi est un paquet stable, on aura le caractère stable. Donc conjecturé par Langlands on aura des formules très similaires de trace stable pi de H, c'est l'intégrale sur X de SO H theta stable pi X dx. Donc dans le cas GRSN2, alors X c'est la droite affine du point de F. Donc tous les formules qu'on fait, c'est des intégrations sur la droite affine contre la mesure additive. Et la mesure elliptique ici, c'est le. On a la partie elliptique ici, c'est les traces des aimants elliptiques, donc ce qui sera l'intervalle moins 2 et 2, dans le cas où F est à R. Et dans ce cas-là, on a cette. Mesure ou delta x, on a cette mesure delta x, vx dx, et ça c'est la racine carrée de 4 moins x au carré, et dx c'est la mesure additive, et ceci c'est 2 pi ou pi, alors ça c'est vraiment une question de chance, mais c'est une multiple de pi. Qui est le volume du. Alors, tout ça, c'est peut être relié de façon vraiment jolie à l'histoire de polynôme de Chebyshev, que j'aime beaucoup, encore que je n'ai pas pu mettre toutes les formules au point. Mais c'est la relation. Avec les polynômes de Chebyshev. Donc, on a le. On a le polynôme de Chebyshev de première espèce. Tnx. C'est le polynôme tel que cotn de cosinus n theta égale à cosinus de n theta. Et c'est des fonctions qui sont orthogonales. Par rapport à la mesure. Dx sur racine 1 moins x au carré et fonction caractéristique de moins 1 à 1. Donc si on dilate à moins 2 et 2, on obtient bien c'est essentiellement la même chose, mais ici au lieu d'être le ce delta est au dénominateur au lieu de numérateur. Mais il y a le polynôme de Chebyshev de seconde espèce. De un, de cosinus n theta et sinus divisé par sinus de theta. Et ce sont orthogonales. Par rapport à la mesure, c'est la même, mais dx fois la valeur caractéristique de moins 1 à 1, et maintenant le dénominateur se vire au numérateur. Alors vous voyez bien que Ça se rapproche avec notre histoire, mais il y a encore une autre fonction qui est le caractère stable. De série discrète de SN2 de R. Donc là, c'est une fonction que qui est une fonction θ n disons de G, mais c'est vraiment le, ça dépend de la trace, de X, X et c'est moins sinus n theta divisé sinus theta si X c'est la trace de G et G c'est cette matrice cosinus theta sinus theta. Et il y a un autre, donc le caractère stable, la partie entre elliptique se ressemble un peu. Ça, c'est vraiment le caractère du groupe compact, de SU2, avec un signe moins, mais il y a une sorte de queue sur la partie hyperbolique. Alors, j'écris sans conviction la formule, mais là. Exponentielle moins nt divisé par. Donc G ici c'est probablement la matrice diagonale. Donc vous voyez sur la droite rien, vous avez trois familles de fonctions qui sont reliées. Donc d'abord la fonction la plus bête en quelque sorte, c'est comme la symétrisation du caractère du tore. Donc vous avez ici, c'est exponentielle de inθ plus exponentielle de moins inθ. Fait divisé par 2 peut-être. Donc ici, on a un caractère du tore. On prend le caractère composé, on le symétrise. Du coup, on a une fonction de la variable trace. Donc de sorte que si en utilisant l'orthogonalité du caractère du tore tout seul, on retrouve l'orthogonalité sur des fonctions Chebyshev. Juste par ça. Donc, et ça, c'est vraiment la différence entre la mesure invariante sur le tore et la mesure additive. Donc, ça sort ce delta en dénominateur. Maintenant, si on passe au groupe compact, donc cette formule-là, c'est bien vraiment le E, I, N, θ. N plus 1 θ divisé par EI θ moins EI moins θ. Donc c'est vraiment la forme caractère de Weyl pour SU2. Donc si on utilise l'orthogonalité de caractère dans SU2, on le prend comme l'intégrale sur le cas de conjugaison. Ça fait l'orthogonalité de. Mais ici, c'est vraiment le. Il faut bien attention avec la mesure. On retrouve ça. Parce que dans la formule de Weyl, il y a delta au carré. Donc delta au carré divisé par delta ici, on retrouve un delta ici. Donc le delta, ça passe du numérateur, du dénominateur au numérateur, parce qu'il y a delta au carré dans la formule de caractère de Weyl. Et voilà, on a une, dans le cas SU, dans le cas SN2, on a encore une autre fonction, qui est la fonction remarquable, c'est des fonctions de. Le caractère stable, donc SN2, il y a deux indiscernables. Donc la différence, c'est essentiellement ça, alors que la somme est le caractère stable d'une formule de cet acabit. Et donc la partie elliptique, c'est essentiellement la même chose que le caractère du groupe compact, avec un signe moins, avec une queue sur la partie. Hyperbolique. Alors, ce qui est à retenir ici, c'est en fait ces fonctions n'ont pas l'air d'être reliés comme une fonction d'une variable, mais leurs transformations Fourier sont reliées de façon très simple. Donc la remarque de base, les transformations de Fourier, vraiment, le Fourier sur la variable trace de ces trois familles de fonctions sont reliées de façon simple. Alors, je prends ça comme Tx, donc j'oublie le paramètre n ici, je prends ça Ux. Et si je prends ceci Sx pour le caractère stable, alors vous... Donc il y a le, on aura le, la transformation de Fourier de T chapeau est reliée à S par S chapeau, un chapeau fois, fois le signe. Et ça c'est le que je reviens après, ça c'est comme le la formule de caractère de Genfand-Graeff. Donc on commence par la formule de caractère un peu naïf, on veut du tore, on fait la symétrisation, et c'est pas le caractère stable qu'on veut, et bien il faut une transformation. Et la transformation, on veut dire qu'elle fait le Fourier. Et puis sur le côté des espaces de fréquences, on multiplie par le signe. Bon, il y a peut-être un constant de Weyl quelque part ici, mais il y a un constant lambda. Il y a un constant ici, je ne vais pas oublier. Ensuite, entre cet état n et ça, c'est en fait c'est le truc de Lafoque. C'est essentiellement de passer de... après, il faut diviser par le volume, mais en fait, c'est cette formule, c'est prendre simplement la partie elliptique hein, du caractère. Donc, c'est vraiment le truc de la fois. Après, il y a une question de delta et volume, mais donc, on a U chapeau et essentiellement la valeur absolue de S chapeau. Donc, il y a le U chapeau, U normalisé ici. Normalisé, donc il faut multiplier delta et le volume. Et vous voyez ici dans le carréel, le signe de x, le signe de x fois absolue valeur de x, c'est x. Donc ça, c'est une formule qui ne marche simplement que pour le groupe réel, que le nombre réel. Donc le multiplicateur signe et absolue, ça devient juste x. Du coup, de ce côté, c'est la différenciation. Donc le Fourier de après Fourier, la multiplication de x multiplié par x devient la différenciation. Et c'est comme ça qu'on passe de sine à cosine. Donc ici c'est le fait étonnant que cette transformation est locale. Donc ici c'est concentré sur partie elliptique, ici c'est concentré sur partie elliptique. Alors les deux opérateurs, transfert et la force, ne sont pas locales. Ça change le support, mais le composé, le support. Donc je m'excuse pour l'approximation, j'ai toujours eu du mal à fixer les constantes, mais je suis absolument sûr que ça marche. tout cas, ça donne un exemple, je pense, très joli de ce que je voulais raconter. Ça est complètement illustré par ces polynômes de Chebyshev. Et donc, je termine mon cours par rappeler ce formule de caractère de Genfand-Greif. Alors, en général, là on lance introduit ces notions de cas de facteur de transfert stable. Donc, qui consiste à faire la chose suivante. Quand on a un roulement fixe du N groupe, du coup, on aura étant donné, on aura un transfert de paquets, de N paquets, et donc et aussi de caractère stable, de paquet de PH, de HF, s'envoie sur le paquet Pi de G de F. Et donc on a le paquet stable de H est donné avec un caractère stable. Theta pi H stable et le côté G, pi, le paquet de pi est aussi muni un caractère stable. Donc ceci peut être vu comme une fonction sur XH. Donc c'est l'espace affine qui est un espace affine, c'est des classes de conjugaison stable. Ici, c'est une fonction sur x sur le caractère stable. Et puis donc le transfert stable, c'est une fonction de variable xh et x tel que l'intégrale, donc le facteur de transfert stable, c'est une fonction de variables, xh et x, l'intégrale de sur xh. Donc avec notre mesure canonique, on aura Txh de x, theta ih stable, xh de x, et bien ça doit être le theta pi stable de x. Donc c'est le noyau intégral qui transforme le caractère stable de pH et pi. Et il a la seule raison de penser que ce... Donc contrairement au cas endoscopique, où ce caractère est une sorte de distribution concentrée sur le graphe d'une fonction, donc ça c'est un truc qui a tendance de se disperser un peu. Et on a une raison de penser que ça peut être une formule jolie, semblant pas le fait que les espaces qui sont en jeu sont reliés aux variétés algébriques. Donc ça devait avoir une formule algébrique. Mais reste à trouver cette formule. En tout cas, Langlands propose de le prendre dans l'autre sens, donc la station, on a le cosin stable. Donc c'est le cosin stable de G, donc c'est le cosin. C'est la version stabilisée de H divisé par H stable. Ça devrait être une formule vers le cosin stable une forme linéaire qui est duale à la transfert de caractères stables. Et c'est, comme c'est adjoint, c'est donné par les mêmes noyaux. Donc la forme linéaire adjointe est donnée par le même noyau. Donc pris dans l'autre sens. Et donc l'on lance dans son presque dernier papier. Singularité et transfert. Il a donné des propriétés analytiques de ce transfert dans le cas où G est un SN2 et H est un tore associé à une extension quadratique. Mais ce qui est étonnant, il n'a pas remarqué, c'est qu'en fait, sans savoir que son facteur de transfert stable, dans ce cas, et dans ce monde, dans ce cas, est connu depuis 50 ans. Et connu de Genfang et Greif. Donc bien sûr, c'était rapporté dans leur livre, Genfang, Greif, Piatechip, Shapiro, mais c'était apparu avant, en russe, donc quelques années avant. Alors, quelle est cette formule magnifique? Donc je pense que c'est vraiment un but en soi de généraliser cette formule. Il n'y a pas de raison que ça marche dans ce cas et pas dans l'autre cas. La formule est magnifique. C'est vraiment ces formules-là. Donc, Genfang-Greif, il ne formule pas sous cette forme, mais il formule dans cette forme. Donc, comment de passer de caractère du tore dans le caractère stable de pi. Donc, de nouveau, le caractère de tore est donné un paquet. Et la différence sera le truc endoscopique, mais la somme sera le truc stable. Et ici, la question de calculer le caractère stable. Et la formule est la suivante. La formule de Genfang-Greif, c'est le caractère stable. Donc, si qui est un caractère. Donc, E sur F, c'est une extension quadratique. C'est une vraie extension, sinon le cas décomposé, c'est une formule un peu différente. C'est le cas décomposé sera la formule de caractère du service principal, est différent. Mais ici, on aura le paquet stable piqui, donc de SN2. Donc souvent il y a deux représentations, mais il peut arriver à dire quatre représentations. Et même plus c'est caractéristique 2. Mais on a dans tous les cas θ stable de pi de qui de G. Donc ça c'est un élément dans G. Ce sera l'intégrale. Ici c'est la trace de g moins trace de t. Donc ça, cette formule, je me souviens, parce qu'elle est tellement belle. Et qui de t, dt, sur E1. Donc c'est ça la formule de Gelfand-Graeff. Donc vous voyez, c'est une intégrale sur le tore. Donc contre qui t. Et ici, le noyau, c'est donné par trace de g moins trace de t. Donc on dit au nominateur, c'est le caractère quadratique associé à l'extension quadratique. Et au numérateur, c'est la valeur absolue de la différence. Mais la remarque ici, c'est que lorsqu'on réécrit comme une intégrale, sur la variable trace de t, donc au lieu de l'intégrale sur le tore, l'intégrale sur la droite des traces, eh bien, bien sûr, on aura un delta ici, ça devient dx divisé par delta, parce qu'on change de variable d'intégration, mais ceci devient une convolution additive. Ouais. Parce qu'il n'y a que la trace de g, et ça dépend que la trace de t, et ça, c'est que la trace de g moins une trace de t. Donc, c'est une convolution additive. Et du coup, si on fait Fourier, on aura le multiplication avec le Fourier de ce bidule. Et ici, c'est le caractère divisé par l'absolu, et le Fourier, c'est vraiment le caractère. Et donc, du coup, c'est le signe ici. Donc, si on écrit sous cette forme, on aura toujours cette constante de Weyl qui est la racine quatrième de l'unité, mais c'est vraiment la même formule ici. Donc, du coup, on pourrait écrire le facteur de transfert stable. Donc, si f est une fonction dans le cosin stable de h, donc c'est une fonction de la variable trace, donc Sn2, alors transfert stable de f, ce sera, j'écris la formule correcte ici, c'est lambda de e sur f, donc qui est justement de tenir compte du. Quand on fait Fourier dans un sens ou à l'autre, on va sortir ce lambda. Le transfert de Fourier, psi de Fourier psi moins 1, de f fois le caractère quadratique de E. Donc c'est ça le... Et en plus de restreint, donc le. Et puis restreint à trace de E1. Donc f, c'est une fonction de toutes les traces. En faisant ça, on a fondu une variable, mais bien sûr, on va prendre l'image inverse au tore. Voilà. Et ce qui est à noter ici, que ces formules maintenant fait cette forme, ça marque aussi sur la série principale, parce que du coup, ça c'est le cas des triviales. Donc en fait, ça on fait rien, et ça c'est il y en a un. Donc c'est voilà. Et bon, ces formules-là, qui a une démonstration, enfin presque démonstration dans le livre de Gelfand-Graeff, mais qui n'est pas très difficile d'ailleurs, mais je n'arriverai pas à faire au tableau, parce que ces paquets stables sont donnés par les représentations dihédrales, données par la représentation de Weyl, donc on a les actions matriciennes du groupe. On a décrit une transformation intégrale. Et ce qui est noté ici, je vais écrire la formule au lieu d'écrire parce qu'il faut écrire des formules ici. Ça donne un peu l'explication pourquoi on a la convolution additive ici, c'est quand même ça qui est mystérieuse. Je demande comment ça marche en général. Mais dans le cas de la représentation de Weil. Quand il y a E sur F, une extension quadratique de commun représentation de Weil de SN2 de F, agissant sur les fonctions Schwartz de E. Donc on a bien sûr WE de alpha, alpha moins 1 de phi de Z, c'est eta E alpha, valeur absolue de alpha, phi de alpha Z. On a l'axiome de l'unipotence supérieure de Z, c'est psi de U norme de Z, phi de Z. Et l'axiome de l'élément de Weil, phi de Z, c'est la constante de Weil, fois la transformation de Fourier de iota de Z. Iota, c'est la conjugaison. Et là, si vous vous amusez à écrire quelle est la... Donc ici, on a l'axiome de diagonale, de l'impulsion supérieure, l'élément de Weil. Mais si vous êtes au fond de le calcul, il faut calculer l'axiome de l'unipotent inférieur. Après ça, tout se calcule parce que si vous calculez W E de 1 V1 de phi dans Z, eh bien vous trouvez ceci, lambda E sur F, eta E de moins B sur P, l'intégrale sur E de psi de norme de Z moins X divisé par V phi X de X. Donc là ici, vous voyez qu'il y a une... Quand vous écrivez l'axiome de l'élément intérieur, il y a déjà une convolution additive qui apparaît. Donc après des longues calculs avec beaucoup de changements de variables, on trouve c'est la formule de Genfand-Graebe. Donc je ne peux pas prétendre que je le comprends vraiment. Les formules se suivent, mais le calcul formel, il y a une longue, après des longs changements de variables, on arrive à ça. Et il y a des preuves plus rigoureuses, mais je crois que dans cette preuve, la preuve originelle de Genfand-Graebe, c'est comme ça, c'est écrit explicitement toutes les actions. Et ça marcherait aussi si on prend la peine de prendre les régularisations adéquates. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.